Chapitre 2. Il semble que nous avons négligé une personne dont le noble caractère et les pensées ont tenu une grande place au commencement de ce récit. Nous voulons parler de la pieuse Lucine. Ses vertus, en effet, d'une nature calme et toute unie, étaient de celles qui ne recherchent pas l'éclat de la scène publique et qui interviennent le moins possible dans les affaires générales. Sa maison avoisinait, ou plutôt contenait un titre, ou église paroissiale, et dans ce moment même, le souverain pontife l'honorait de sa présence. L'approche d'une persécution violente, dans laquelle les chefs du royaume spirituel du Christ avaient la certitude d'être les premiers désignés à la haine publique, comme les ennemis de César, nécessita la translation de la résidence du chef de l'église, de la maison qu'il habitait, dans un asile plus sûr. La maison de Lucine fut choisie pour cet objet, et le pape continua à y résider, à la grande joie de la noble dame, pendant ce pontificat et le pontificat suivant, jusqu'à l'époque où l'on y transporta les bêtes féroces en ordonnant au pape Marcellus de les nourrir chez lui. Cette odieuse décision causa bientôt la mort du pontife. Lucine fut admise à 40 ans dans l'ordre des diaconesses et elle trouva de nombreuses occupations dans les devoirs de sa charge. La direction et la surveillance des femmes attachées au service de l'Église, le soin des pauvres et des malades de son sexe, la confection et l'entretien des vêtements sacerdotaux et du linge destiné à l'autel, l'instruction des femmes et des enfants convertis au christianisme et attendant le baptême, la tâche de les conduire à cette sainte cérémonie, constituaient de nombreux devoirs pour les diaconesses et venaient s'ajouter à leurs occupations domestiques. C'est dans l'exercice de ces deux sortes de devoirs que Lucine passait sa paisible vie. Il lui semblait que l'idéal de son existence était atteint. Son fils était offert à Dieu, il vivait prêt à verser son sang pour la foi. Veiller sur lui, prier pour lui, c'était une joie pour la pieuse veuve plutôt qu'un nouveau devoir. La réunion matinale dont nous avons parlé au dernier chapitre eut lieu au jour indiqué. Il nous suffira de dire que des instructions étendues furent données pour accroître la collecte des aumônes destinées à agrandir les cimetières, à enterrer les morts, à aider ceux que la persécution obligerait à se cacher, à nourrir les prisonniers, à obtenir accès auprès d'eux et enfin à racheter le corps des martyrs. Un notaire fut nommé pour chaque région afin de recueillir les actes et de relater les événements dignes d'intérêt. Les cardinaux, c'est-à-dire les prêtres titulaires, reçurent des instructions concernant l'administration des sacrements et surtout de la Sainte Eucharistie pendant la persécution. On assigna à chacun d'eux un ou plusieurs cimetières. C'était dans les églises souterraines qu'ils devaient célébrer les saints mystères. Le pape choisit lui-même le cimetière de Callistus, ce qui causa un mouvement d'innocente fierté dans le cœur de Diogène, son fossoyeur en chef. Le vieillard, la pioche funèbre, semblait plus qu'inquiet à la pensée de la persécution dont les présages paraissaient si menaçants. Nul officier du génie chargé de la défense d'une place fortifiée ne donne ses ordres avec plus de clarté et de précision que le vieux Diogène, commandant à ses subordonnés des différents cimetières qui entouraient Rome. Il les réunit chez lui et leur communiqua les instructions qu'il avait reçues de la haute assemblée. L'ombre du cadran solaire de la porte Capenne marquait midi quand il sortit avec ses deux fils pour aller retrouver les trois jeunes gens qui l'attendaient déjà. Ils marchèrent deux à deux le long de la voie appienne. À près de 2 milles de la porte, ils se dirigèrent par différents chemins, se glissant à travers les tombes qui bordent cette voie, vers la même villa qui était placée à droite de la route. Là, ils se munirent de tout ce qui était nécessaire à une visite souterraine dans les catacombes. Ils prirent des torches, des lanternes et tout ce qui pouvait procurer de la lumière. Sévérus proposa que, comme les guides et les visiteurs étaient en nombre égal, la petite troupe se partagea deux par deux et, dans le partage, il prit avec lui Torquatus. Il est aisé de deviner le motif qui le faisait agir ainsi. Il serait sans doute fatigant pour nos lecteurs de suivre toute la conversation de la petite caravane. Diogène ne se contentait pas de répondre à toutes les questions des visiteurs, mais de temps à autre, il faisait une petite lecture sur les objets qu'il regardait comme les plus intéressants. Nous croyons plaire davantage à nos aimés lecteurs en condensant dans un petit nombre de pages les renseignements que Diogène donna aux jeunes gens. Ils désireraient peut-être connaître quelque chose de la suite de l'histoire de ces prodigieuses excavations dans lesquelles nous venons d'introduire les pieux pèlerins. On peut diviser l'histoire des premiers cimetières chrétiens, des catacombes, en trois périodes. La première daterait du commencement du christianisme et se terminerait au moment de notre récit ou quelques années plus tard. La seconde irait jusqu'au 8e siècle et la troisième se prolongerait jusqu'à notre temps où, nous avons des motifs de l'espérer, une ère nouvelle commencera pour les premiers cimetières chrétiens. Nous avons généralement évité de les désigner sous le nom de catacombes, de peur de donner l'idée à nos lecteurs que c'était là le nom employé généralement pour définir les cryptes des premiers âges du christianisme. Ce ne serait pas une idée juste. On peut dire que Rome est entourée d'une ceinture de cimetières, au nombre de 60 environ, et que chacun porte le nom d'un ou de plusieurs saints dont les corps ont reposé dans son sein. Ainsi, nous avons les cimetières des saints Nérée et Achillée, de sainte Agnès, de saint Pancratius, de Prétextatus, Priscilla, Hermès, etc. Quelquefois, ces cimetières étaient connus sous le nom des endroits qu'ils occupaient. Le cimetière de Saint-Sébastien, qu'on appelle aussi quelquefois « Cimeterium a Sanctum Ceciliam », portait parmi d'autres noms celui de « Ad Catacumbas ». La signification de ce mot est tout à fait inconnue, quoi qu'on puisse l'attribuer au souvenir des reliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul, qui ont été enterrées là dans une crypte qui existe encore près du cimetière. Ce mot devint le nom de ce cimetière particulier, puis il fut généralisé lorsqu'enfin on désigna le système tout entier de ces excavations souterraines sous le nom de catacombes. Leur origine fut, au siècle dernier, le sujet d'une controverse. D'après deux ou trois textes vagues et équivoques, de savants écrivains ont cru pouvoir déclarer que les catacombes avaient été originairement creusées par les païens pour en extraire le sable qu'on employait au bâtiment de la ville. On nommait ces carrières « arenaria », nom qu'on donnait aussi quelquefois aux cimetières chrétiens. Mais un examen plus approfondi et plus méthodique, fait particulièrement par le savant F. Marquis, a renversé complètement cette théorie. On trouve souvent, comme on peut s'en assurer encore aujourd'hui, des sablonnières à l'entrée des catacombes. Ces sablonnières souterraines dissimulaient parfaitement l'existence des cimetières. Plusieurs circonstances prouvent qu'elles n'ont jamais été employées pour l'inhumation des chrétiens, ni converties plus tard en cimetières chrétiens. Quand on veut extraire du sable, on place l'excavation aussi près que possible du sol. On s'y ménage une entrée facile afin d'en extraire avec moins d'effort les matériaux et on pratique une ouverture aussi large qu'on peut le faire sans compromettre la solidité de la voûte pour simplifier et activer les recherches. Nous observons tous ces caractères dans les arenaria qui abondent encore aux environs de Rome. Mais les catacombes sont construites d'après les règles précisément opposées. On s'enfonce généralement, plutôt qu'on ne descend dans les catacombes, par une suite de degrés rapides et roides qui conduisent au-dessous d'un sable mou et friable jusqu'à une couche qui acquiert la dureté d'une pierre tendre mais consistante sur la surface de laquelle les traces de la pioche sont encore visibles. Quand on atteint cette profondeur, on est seulement dans la première partie du cimetière car on descend encore un second, puis un troisième étage, tous construits d'après les mêmes principes. On peut diviser une catacombe en trois parties, ses passages ou ses rues, ses salles ou places et ses églises. Les passages sont de longues galeries étroites, assez régulièrement tracées pour que le plafond et le plancher soient à angle droit avec les murailles. Ces passages sont souvent si étroits que c'est à peine si deux personnes peuvent passer de front. Tantôt, ces interminables galeries se prolongent en ligne droite sans solution de continuité, puis elles sont croisées par d'autres avenues, coupées elles-mêmes de corridors, de sorte que cet ensemble forme un vrai labyrinthe, un réseau compliqué de rues souterraines, au milieu desquelles un visiteur égaré eût éprouvé un sort fatal. Ces passages souterrains ne sont pas uniquement construits, comme leur nom semble l'indiquer, pour conduire à un endroit déterminé, Ils forment eux-mêmes des catacombes ou des cimetières. Leurs murailles et les parois de l'escalier forment comme une ruche funéraire. Elles sont garnies du haut en bas de rangs d'excavations de grandeurs différentes et pouvant contenir des corps humains depuis la taille d'un enfant jusqu'à celle d'un homme fait. Quelquefois, le nombre de rangées de tombes superposées s'élève à 14. Souvent, il n'y en a que 3 ou 4 placées les unes au-dessus des autres. Ces tombes, évidemment, étaient creusées sur mesure et il est même probable qu'on déposait le corps sur le bord de la fosse pendant qu'on la creusait. Quand le corps, enveloppé, comme nous l'avons entendu dire à Diogène, était déposé dans son étroite cellule, on fermait l'entrée de la tombe, soit avec une dalle de marbre, soit à l'aide de larges tuiles qu'on fixait dans une rainure formée sur la pierre à cette intention, et on entourait le tout de ciment. L'inscription était gravée sur le marbre ou creusée dans le mortier encore humide. Des milliers d'inscriptions du premier genre ont été recueillies. On peut les voir dans les musées et dans les églises. Un grand nombre d'inscriptions, tracées dans le mortier, ont été copiées et publiées, mais la plupart des tombes sont anonymes et ne portent la trace d'aucun memento. Le lecteur nous demandera avec raison à quelle époque il faut faire remonter les enterrements dans les catacombes et comment on peut indiquer le terme où ils cessèrent de recevoir des morts. Nous allons essayer de le satisfaire aussi brièvement que possible. Il n'y a aucune preuve que les chrétiens aient enterré leurs morts dans un autre endroit avant la construction des catacombes. Deux principes, aussi anciens que le christianisme, portaient à ce genre de funérailles. Le premier est le souvenir de la descente du Christ dans le sépulcre. Il fut déposé dans une tombe qui formait une caverne, enveloppé dans un linge embaumé d'aromates, et une pierre placée à l'entrée ferma son sépulcre. De même que saint Paul l'a souvent présenté comme le modèle de notre résurrection et a dit que nous étions ensevelis avec lui par le baptême, il était naturel que ses disciples désirassent être inhumés de la même manière que lui, afin d'être prêts à se lever avec lui. Ce repos dans l'attente de la résurrection fut la seconde pensée qui conduisit à l'établissement de ces cimetières. Chaque expression qu'on trouve dans ces lieux souterrains forme une allusion à cette aurore de la résurrection. Le mot « enterré » ne se rencontre pas dans les inscriptions chrétiennes. On trouve toujours « déposé en paix », « la déposition de » sont des expressions consacrées. C'est-à-dire que le mort n'était déposé là que pour un temps, jusqu'à ce que, appelé par la voix de Dieu, il se releva vivant de la vie éternelle. Dépôt précieux confié à un gardien fidèle mais temporaire. Le seul nom de cimetière donne l'idée que c'est seulement là un endroit où beaucoup d'hommes reposent, comme dans un dortoir, d'un sommeil qui ne durera pas toujours. Ils s'éveilleront quand l'aurore nouvelle s'élèvera et que le son de la trompette de l'ange fera entendre son appel retentissant. Aussi la tombe est-elle demeurée la place, ou plus techniquement l'étroite demeure, de ceux qui sont morts dans la foi du Christ. Ces deux idées qu'on retrouve combinées dans le système des catacombes n'avaient pas germé tardivement parmi les chrétiens, elles avaient au contraire quelque chose de plus vif et de plus caractérisé dans les temps primitifs. Elles durent inspirer l'horreur de l'odieuse coutume des païens qui brûlaient leurs morts, et nous n'avons aucun indice de nature à nous faire penser que ce mode de funérailles ait jamais été en usage parmi les chrétiens. Mais on trouve dans les catacombes elles-mêmes une ample preuve de leur antiquité. Le style des peintures qui subsistent appartient à l'époque où l'art florissait encore. Les symboles, le goût des symboles, qui disparut dans la suite, caractérisent une période très ancienne. Quoique les inscriptions datées soient rares parmi les 10 000 recueillies et au moment d'être publiées par le savant chevalier de Rossi, on en trouve environ 300 portant des dates consulaires depuis les premiers empereurs jusqu'au milieu du IVe siècle, 350. Une autre coutume, à la fois curieuse et intéressante, peut nous fournir les dates des tombes. Quand on fermait une sépulture, les parents et les amis du mort imprimaient habituellement dans le mortier humide une pièce de monnaie, un camé, une pierre gravée, parfois une coquille ou un simple caillou, qu'ils laissaient souvent, afin sans doute de pouvoir reconnaître les sépultures sur lesquelles on n'avait pas tracé d'inscription. On a retrouvé un grand nombre de ces objets que l'on conserve avec soin. Il n'est pas rare, quand la médaille est tombée, de trouver dans le ciment son moule distinct, dessiné avec une précision qui fournit également la date de la tombe. Ces dates remontent parfois jusqu'à l'empereur Domitien et même à des empereurs encore plus anciens. Pourquoi, demandera-t-on, attacher tant de prix à reconnaître des tombeaux ? Outre un motif suggéré par la piété, il en est un autre constamment indiqué dans les inscriptions tumulaires. En Angleterre, si le défaut d'espace empêchait de donner la date complète de la mort d'une personne, nous aimerions mieux indiquer l'année que le jour du mois où l'événement arriva. Cette manière de procéder serait plus utile à l'histoire. En effet, personne ne tient à connaître le jour exact de la mort d'une personne si l'indication de l'année n'accompagne pas celle du jour. Et au contraire, l'indication de l'année seule est un souvenir important. Cependant, pour quelques inscriptions chrétiennes qui mentionnent l'année de la mort des fidèles, on en retrouve des milliers qui rappellent le jour où ils s'endormirent, pleins des espérances de la foi ou dans l'assurance que donne le martyr. On peut facilement expliquer cette coutume. Tous les ans, on faisait la commémoration des fidèles des deux classes. Le souvenir précis du jour de leur mort était pour cela nécessaire. Voilà pourquoi on le conservait. Dans un cimetière voisin de celui où nous avons laissé nos trois jeunes gens avec Diogène et ses fils, on trouva dernièrement ces deux sortes d'inscriptions mêlées ensemble et appartenant à ces deux ordres de mort. Une d'elles est en grec. Après avoir appelé la déposition d'Ogenda, le 13e jour avant les calendes, ou le 1er jour de juin, elle ajoute ces simples mots « Vis dans le Seigneur et prie pour nous ». Un autre fragment est ainsi conçu. « Nonne de juin, vis en paix et prie pour nous ». En voici un troisième. « Victoria, sois dans un lieu de rafraîchissement et que ton esprit soit dans la joie ». Cette dernière inscription nous rappelle une épitaphe fort originale qu'on a trouvée tracée dans le mortier à côté d'une tombe du cimetière de Prætextatus, non loin de celui de Callistus. Elle est remarquable d'abord parce qu'elle est en latin, tracée avec des lettres grecques, ensuite parce qu'elle contient un témoignage de la divinité de notre Seigneur, enfin parce qu'elle formule une prière pour le rafraîchissement de l'âme du défunt. Nous remplacerons les lettres tombées avec le ciment. À la très méritante sœur, bon, le 8e jour avant les calendes de Nov, que le Christ, Dieu Tout-Puissant, rafraîchisse ton âme dans le Christ. Malgré cette longue digression à propos des prières qu'on trouve inscrites sur les tombes, nous espérons que le lecteur n'aura pas oublié le fait que nous avons voulu mettre hors de doute, à savoir que les cimetières chrétiens à Rome remontaient aux premiers âges. Nous avons maintenant à établir à quelle époque on cessa de les employer comme lieu de sépulture. Quand la paix eut été rendue à l'Église, la dévotion porta les chrétiens à désirer d'être inhumés près des martyrs et des saints des premiers siècles. Mais, en général, ils se contentèrent de reposer sous les dalles des galeries. Ce sont ces pierres sépulcrales qu'on retrouve souvent dans les décombres des cimetières souterrains ou quelquefois à leur place même. Elles portent des dates consulaires qui les font remonter au IVe siècle et sont plus épaisses, plus grandes, mieux gravées et d'un style moins simple que les pierres d'un âge plus reculé qu'on trouve sur la muraille. Mais avant la fin du IVe siècle, ces monuments devinrent plus rares et les inhumations dans les catacombes cessèrent complètement au Ve siècle au plus tard. Le pape Damasus, qui mourut en 384, n'osa pas, retenu par le respect, comme il le déclare dans sa propre épitaphe, s'introduire dans la compagnie des saints. Restitutus, dont nous avons placé la pierre sépulcrale en tête de ce chapitre, doit être regardé comme parlant au nom de ces premiers chrétiens et réclamant pour eux, comme leur propriété exclusive et leur ouvrage, les 330 lieues de la cité souterraine, avec les 6 millions d'habitants endormis qui, pleins de confiance dans le Seigneur, y attendent la résurrection.